ne court pas les micros, les caméras. C'est donc un honneur de le recevoir sur Inter. Bonjour Yves Régitlis.
Bonjour.
Merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir bravé la canicule pour la fraîcheur de notre studio. Vous ne venez pas pour une actualité particulière, mais vous êtes là à notre demande. Gourmand que nous sommes de passer du temps avec vous, Yves Régitlis. Nous avions envie de vous écouter évoquer votre passion du violon, vos maîtres, vos amis, comme la pianiste Martha Argerich. Entendre en vous peut-être le petit garçon de Haïfa, au nord d'Israël, à l'époque en Palestine. Garçon qui réclama un violon à 5 ans et devint un enfant prodige, élève de grands maîtres comme Georges Enesco, Jacques Thibault ou Jascha Heifetz. Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Des enfants peut-être au programme de votre reportage.
Oui, tout à fait, hein, pour une très belle initiative. Ce sont les orchestres Demos. C'est en fait un programme qui permet à des enfants vivant dans les quartiers populaires ou à la campagne d'accéder à la musique classique.
Ben, on vous retrouve dans quelques minutes, Antoine Lee. L'envie de ce jeudi, c'est de commencer par écouter la musique que Vladimir Cosma a composée pour le film L'As des As de Gérard Oury. Quoi ? Belmondo dans la récréation ? Non, Yves Régitlis, c'est lui qui joue ce titre, les SS et la famille juive. Bienvenue dans la récréation.
La récréation, Vincent Josse, sur France Inter.
Vladimir Cosma, l'as des as.
La récréation, Vincent Josse.
Et Yves Régitlis de dire, il y a longtemps que je n'ai pas entendu ça.
Ouais, je sais pas, ça fait longtemps, c'est très joli d'ailleurs.
Vous avez souvent travaillé avec le cinéma et pour le cinéma, Yves Régitlis ?
Ben, je crois que la vie est un cinéma, alors parce que faire du travail, c'est presque une mauvaise habitude.
Mais vous avez joué, quand Cosma vous l'a demandé, à deux reprises d'ailleurs, mais vous avez aussi joué pour des réalisateurs. Louis Malle a fait appel à vous, Volker Schondorf, et puis il y a eu aussi Truffaut. Vous jouez le magicien dans l'histoire d'Adèle H.
Ça, c'était merveilleux d'ailleurs de travailler avec lui, parce que c'était pas du travail, c'était vraiment une créativité vivante, comme ça, c'est quelqu'un de... merveilleux.
Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient chercher Yves Régitlis ?
Ah, ça, c'est, il faut leur demander à eux. Moi, je me cherche tout le temps, alors je ne sais pas.
Vous cherchez à 94 ans ?
Écoutez, si je ne le faisais pas à 94 ans, je n'ai pas tout à fait encore. Écoutez,
oui, c'est vrai,
laissez-moi une chance.
Excusez-moi, je suis un petit peu grossier.
Un peu bien.
Comment va votre Stradivarius ?
Ben, lui, il a presque. Il est plus âgé que moi, il a 300 ans. Ben, il va bien, il est beau. Je m'arrive tout pour le prendre dans la main pour le regarder. C'est une œuvre, c'est tellement beau.
Vous avez dit un jour de lui, je le regarde parce qu'il a une âme.
C'est sûr. D'ailleurs, vous savez que le petit morceau de bois qui est entre la paroi supérieure, celle d'en bas, on l'appelle l'âme. J'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle L'âme et la corde.
Ah oui, il est à côté de moi là, il a paru chez Bûcher-Chastel. D'ailleurs, vous l'avez repris au fil du temps, comme si vous aviez besoin d'ajouter des souvenirs, que des choses qui vous avaient échappées vous sont revenues.
Ah oui, ça a paru d'abord chez Robert Laffont et puis là c'est paru chez... Mais oui, mais je le relis comme ça de temps en temps, je tombe dessus... Et je trouve que je n'ai pas trop mal comme ça.
Ah oui, vous dites qu'il est assez doué, l'auteur Yves Régitlis. C'est vrai que vous avez souvent écrit dans votre vie, ça fait partie de vos activités ça aussi.
Mais j'ai toujours écrit, je veux dire, pour moi, D'ailleurs, pour moi, parler, par exemple, c'est écrire aussi dans un sens. C'est pour ça que moi, j'aime bien les émissions et je voudrais, si possible, d'avoir une copie de ça, par exemple.
On vous l'enverra.
Oui, c'est une sorte de manière
d'écrire. Parce que vous la réécouterez peut-être plus tard?
Peut-être moi, peut-être mes enfants, peut-être mes arrière-petits-enfants de 277 ans.
Importance pour Yves Réguitlis de garder des traces?
Oui, je pense que oui, ça doit être une maladie juive qui est nécessaire, malheureusement. Oui,
bien sûr, bien sûr, on le dit très souvent. On va vous écouter, si vous voulez bien parler, certes, mais aussi jouer. Il y a un enregistrement historique, c'est votre concerto pour violon en ré mineur, opus 47 de Sibelius, dans les années 50. Je crois que l'enregistrement date de 55. On y entend votre fougue, le lyrisme et la fougue du jeune Réguitlis. On écoute l'Allegro Manon Tanto. Thank you. Voilà un mouvement du concerto pour violon en ré mineur opus 47 de Sibelius par l'Orchestre Symphonique de Vienne, dirigé par Yasha Orenstein, et avec au violon donc Ivry Gitlis, qui écoutait avec beaucoup de sérieux et qui a dit pas mal.
Bah, j'ai dit que la musique est pas mal.
Et l'interprète?
Je crois pas mal non plus. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je n'aime pas ni la fausse modestie,
oui,
ni la fausse... orgueil, je sais pas. Les choses sont telles que ça. Quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Mais quand c'est bon, il n'y a pas de raison que je dise que c'est mauvais.
Là, vous avez une trentaine d'années quand vous enregistrez ce concerto. Ouais. Et vous entrez avec ça, si je puis dire, et ça, c'est pas rien, aux États-Unis.
C'est avec ce concerto que j'ai fait mes débuts à New York, avec l'Orchestre Philharmonique de New York. Et George Sell, qui dirigeait, qui était un des grands chefs d'orchestre du XXe siècle, oui. Et que c'est un homme réputé être très difficile, très même désagréable, quelquefois avec ses meilleurs amis, enfin je veux dire avec un ou deux, j'oublie le nom de pianistes et violonistes célèbres de l'époque qui étaient ses amis, mais devant l'orchestre, qui le détestait d'ailleurs. Il était un chef dans l'orchestre philharmonique de New York pendant quelque temps. Il les traitait d'une façon... Il fallait peut-être qu'un Freud analyse pourquoi.
Se penche là-dessus. Il est réputé, ce concerto, il n'est pas le seul, mais quand même, pour être un des plus grands au monde, vous confirmez?
Ah, c'est un des plus beaux concertos pour violon, ça c'est sûr. Très spécial. C'est quand même assez étonnant, c'est la chaleur de ce concerto, le feu qu'il y a là-dedans. Ça vient d'un pays très nordique où l'hiver est le plus long.
Et c'est ça qu'il faut trouver quand on l'interprète, retrouver?
Vous savez, il n'y a pas de « il faut ». Où on l'est, on l'a, on le fait, ou on ne l'est pas.
C'est-à-dire qu'il faut être le froid, il faut être le feu, tout dépend de l'œuvre, mais il faut être...
Il faut être la chose. Je crois que c'est dans toute chose. Vous êtes dans la chose que vous faites. Et ça, je peux le ressentir, et les gens qui nous écoutent sans doute le sentent aussi. Et j'espère que... Enfin, on peut pas tricher. Il n'y a pas de trichage possible.
Le chef d'orchestre italien Toscanini, Arturo Toscanini, ne trichait pas non plus.
Non, moi j'adore. C'était pour moi un grand chef d'orchestre, indubitablement. Mais j'aime Toscanini parce qu'il a pu dire à Mussolini, va te faire. C'était quelqu'un qui prenait position, qui était un homme.
Un homme engagé, comme on dit.
Oui, mais j'aime pas tellement le mot engagé, parce que je pense que si on est dans quelque chose, on sent quelque chose.
Un homme courageux.
Mais le courage, oui. C'est le courage qui vous choisit, c'est pas vous qui vous choisissez.
On va l'écouter diriger, Toscanini. Ah, vous avez eu envie d'entendre avec nous l'ouverture de La Force du Destin. Ouais. Et Toscanini dirige ici l'orchestre symphonique de la NBC de New York. Ivry Gitlis, vous avez vu Toscanini diriger ?
J'ai vu.
Il était comment ?
Il était petit. Il était grand. Il était vivant. Il était. Ce qui n'arrive pas très souvent. Malheureusement, les gens oublient d'être, quelque part.
Et le violoniste Yasha Eifet, il était ?
Certainement, il était. Ça, c'était... C'est presque prétentieux de dire qu'on était amis. Mais, ok, il était un ami. je pense que moi je l'aimais, c'est normal, mais il m'aimait beaucoup aussi.
Qu'est-ce qu'il vous a transmis?
Tout ce qu'il ne m'a pas transmis, il était. C'est vrai, je pense que si vous vous trouvez dans une montagne ou un nuage qui passe, si vous, un rayon de soleil passe sur votre tête, vous le sentez. Alors, c'est pas une question de... Je crois que malheureusement, dans notre vie actuelle, toute cette mécanisation à outrance de tout fait qu'on a plus tellement de relations vivantes et directes avec les éléments qui, bon, je sais pas. Dans l'Antiquité, les gens, lorsqu'il y avait un tonnerre, ça voulait dire quelque chose d'autre seulement que peut-être une pluie venante, ou je ne sais pas. On a un peu...
Aujourd'hui, on poste la photo de la pluie sur Facebook. On va l'écouter à Eiffel, si vous voulez bien, Ivry Gitlis, dans le concerto pour violon numéro 2 en mi mineur opus 64, le mouvement Allegro Molto Vivace de Mendelssohn.
Thank you.
Passion, Vincent Josse.
On va retrouver Yves Riguitlis, notre invité d'honneur aujourd'hui dans la récréation, mais on va évoquer avec vous, Antoine Lee, ce qui se passe ce week-end à la Philharmonie de Paris, puisque la Philharmonie propose des concerts avec des musiciens un petit peu particuliers. Ce sont des enfants, Antoine, qui font partie du programme Demos. C'est une initiative en faveur de la démocratisation de la culture.
Oui, lancé il y a 7 ans, le programme Demos a pour ambition de permettre à des enfants d'accéder à la musique classique, parce que peu d'entre eux auraient eu l'occasion de jouer un instrument à cause essentiellement de raisons sociales et économiques. Ils sont aujourd'hui près de 3000 enfants un peu partout en France à bénéficier de ce programme solidaire.
Alors chaque enfant s'engage pour 3 ans et il suit 4 heures de cours par semaine.
Et ce week-end, ce sont les enfants de l'Île-de-France et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui vont se produire à la Philharmonie de Paris. Et samedi dernier, j'ai pu assister aux dernières répétitions d'une centaine d'enfants venant de la Seine-et-Marne. C'est leur première année de musique grâce au programme Demos.
Il paraît qu'avant de répéter, ils ont même eu le droit de visiter la grande salle Pierre Boulez.
Allez, là les filles, 2 par 2.
Voilà. Vous êtes contents d'être là, les enfants ?
Ouais !
Et pourquoi ?
Parce qu'on fait de la musique.
Et qu'on apprend à jouer.
Toi, tu fais quoi comme instrument ?
Cornet.
Trombone.
Trompette.
Patrick Toffin, vous êtes le responsable pédagogique de Demos. D'où viennent ces enfants ?
Alors, ce sont des enfants qui habitent dans des quartiers populaires ou des zones rurales où les enfants n'auraient pas la possibilité, tout simplement, d'avoir une pratique artistique.
Tout le monde est installé, c'est bon ?
Oui.
C'est bon. Alors, à votre avis, on est où ici ?
C'est là où on va chanter.
À votre avis, elle a une particularité, cette salle ? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous quand on la regarde ? Qu'est-ce qu'on voit ?
Elle est ovale.
Elle est ovale, tout à fait. C'est pour l'acoustique. C'est-à-dire quand je tape des doigts, en fait, le son, il tourne. Pour ceux qui sont derrière et ceux qui sont devant, puissent entendre la même chose. Je vous invite à tout doucement regagner la sortie.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Et maintenant, on va commencer la répétition à 14h avec le chef d'orchestre.
Ça te fait quoi de jouer ici la semaine prochaine ?
C'est trop beau, et j'aimerais bien inviter là et tout. C'est trop beau.
C'est la première fois que vous voyez un endroit comme ça ?
Oui.
Allez, s'il vous plaît. Allez.
Qu'est-ce que ça coûte à ces enfants et à leur famille ?
Alors, le projet Demos est un projet de démocratisation culturelle qui fait de la discrimination positive, on peut le dire comme ça, et donc il ne coûte rien aux enfants et à leur famille. Donc l'idée, c'est de leur fournir gratuitement, d'abord l'instrument, mais aussi donc les formateurs.
Vous allez bien ?
Oui.
Vous êtes motivé ?
Oui.
On fait marche des matelots, marin marais, s'il vous plaît.
Comment est financé alors le projet Demos ?
Alors, le projet Demos est financé donc par l'État, et donc la Philharmonie est le représentant. Il est financé avec l'aide de collectivités locales et de l'aide de partenaires comme la CAF. Il est aussi financé à l'aide de mécénat.
Sol, la, sol, la, sol, sol,
si. Et on peut faire sol, sol, ré, mi, ré, sol.
Comment tu t'appelles ?
Mohamed.
Et toi, comment tu t'appelles ?
Evan.
Tu joues de quel instrument ?
Violon.
Toi, tu joues de quel instrument ?
La contrebasse.
Ça vous fait quoi de jouer ici aujourd'hui, là ?
C'est trop bien qu'on joue, parce que j'attendais ce moment depuis longtemps. Parce que j'adore les instruments. La contrebasse, c'est le plus grave, et le violon, c'est aigu.
Bravo, comment tu t'appelles ?
Neil.
Neil, t'as quel âge ?
J'ai 9 ans. Et je suis heureux que je fais de la clarinette. Parce que une clarinette, déjà, c'est comme un trésor. Tu dois la soigner. Et quand tu joues dans la clarinette, je me dis toujours que j'ai de la chance de jouer.
La tierra de Chaco que brachera y montarás. Prenderá mi sangre como un ronco sapucay. Il sera nel sur come sombrero baro el salfaro de luz. Algodón que se va, que se va,
la tabla una mojada de luna y su
tono, un ranchito por
dentro de sueños y amor,
quiero yo.
A Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur Guitlis, Vincent, mais c'est vraiment pas mal, hein.
C'est merveilleux, c'est pas mal, c'est plus que mal, c'est merveilleux.
Et c'est des premières années, hein, c'est leur première année de pratique musicale. Et sachez aussi que plus de 50% des enfants qui ont suivi le programme Demos s'inscrivent au conservatoire par la suite.
Merci, Antoine Lee, on peut réécouter, retrouver vos enfants, réécouter votre reportage sur franceinter.fr. Vous allez tout simplement sur la page de la récréation. La danse du bâton, Ivry Guitlis, c'est vous là, au violon, et c'est Bartok, le compositeur. Vous aimez jouer sa musique, hein ?
Ah, j'aime Bartok, c'est un de mes amours. Le plus profond, le plus capital.
Les mélodies folkloriques, la musique populaire, fait partie des musiques que vous interprétez ?
Je crois que toute la musique est musique, est une musique populaire, si vous voulez, parce que c'est fait pour le peuple, c'est fait par le peuple, dans un sens. Quand vous pensez que ce qu'on considère les plus grands compositeurs, etc., ont puisé leur nourriture spirituelle comme physique de la terre. En fait, je veux dire, il n'y a pas de musique comme ça, musique.
Vous l'avez et vous l'emmenez toujours un peu partout, la musique. Vous allez beaucoup au Japon. Par exemple, là, vous jouiez avec une pianiste japonaise. C'est une terre très accueillante, le Japon. On vous aime aussi là-bas. Ouais. Vous avez beaucoup joué. Vous y allez encore régulièrement. Vous y étiez il y a quelques semaines.
J'étais là-bas il n'y a pas longtemps.
Pour un concert?
Je ne suis pas allé pour manger des sushis seulement.
Non, mais vous auriez pu aussi séjourner en touriste heureux de fréquenter ce pays et des amis japonais. Ça vous arrive aussi?
Oui, non, mais j'aime pas tellement le tourisme.
Le tourisme vous ennuie.
Ça, un peu voyeur, un peu. J'aime aller faire quelque chose.
Oui, il faut être et faire.
Oui, voilà. Oui.
Et pas faire du tourisme. On va écouter Enescu. Qu'est-ce que vous diriez de lui, ce compositeur?
C'était un grand compositeur, c'était un grand violoniste, c'était un grand maître, et c'était un être humain, voilà. Vous savez, c'était toutes ces choses. Je sais pas dire le mot travailler, mais j'ai joué avec lui, enfin, des leçons, boulevard Malesherbes, quand j'avais 14-15 ans, et lui, il était pianiste merveilleux, alors il était au piano, il jouait avec vous tout.
Eh bien, on écoute la sonate numéro 3 en la mineur opus 25 pour violon et piano de Enescu. Votre maître, Valérie Sokolov, est au piano et Svetlana Kosenko au violon. Thank you.
magnifique.
C'est magnifique, dit Ivry Gitlis. Vous écoutiez les yeux fermés. Qu'est-ce que vous cherchiez à entendre?
Ce que je n'entends jamais. Je crois qu'on voit le mieux, on voit dans l'obscurité. Et les gens aveugles voient d'autant mieux. Et quand je risquais d'être aveugle quand j'étais enfant,
Parmi vos amis, on en a cité pas mal déjà dans cette récréation Ivry Gitlis, il y a Martha Argerich. Il paraît que vous jouez souvent, comme des musiciens de jazz peuvent faire un bœuf. Eh bien, quand Martha Argerich rencontre chez lui, ou quand elle est chez elle, quand ils se rencontrent, ils jouent. Ivry Gitlis prend son violon, son Stradivarius de plus de 300 ans, et Martha Argerich se met au piano. Qu'est-ce que vous jouez d'ailleurs quand vous avez envie de jouer ensemble? Ça peut être qui? Ça peut être quoi?
Vous savez, il y a des... presque toutes les œuvres écrites pour le violon sont écrites avec soit accompagnement, soit partenariat avec piano. Alors, il y a du Beethoven jusqu'à Tchaïkovski, jusqu'à Paganini, etc. On a fait pas mal de concerts ensemble. On a enregistré deux, trois choses. On a enregistré la sonate de César Franck, la sonate à concert de Beethoven. Etc.
Pourquoi vous l'aimez?
Pourquoi j'aime Martha? Est-ce que d'abord aimer quelqu'un, est-ce que ça s'explique? Enfin, parce qu'elle est formidable, parce qu'elle est Martha, parce que
vous avez dit
elle joue du piano comme personne d'autre. Enfin,
vous avez dit que c'était une impératrice sans qui le piano n'existerait pas. C'est énorme.
Mais elle est une impératrice. Je sais pas si j'ai dit le piano n'existerait pas. Ça m'étonne.
Non, c'est pas votre genre de dire des choses comme ça. Non, mais elle en tout cas, une impératrice, vous l'avez dit. Ce serait bien qu'on l'écoute, non?
Absolument.
Dans Beethoven, par exemple, vous l'avez cité.
Thank you.
de Beethoven, Quatuor numéro 3 en do majeur pour piano et trio de cordes. Le final, c'était Martha Argerich au piano. Il y avait Renaud Capuçon au violon, Lida Chen à l'alto et Gauthier Capuçon au violoncelle. Une bonne version, monsieur Gitlis?
Pas mal du tout.
Bon, en tout cas, moi j'aimerais bien être une petite souris pour vous voir jouer avec Martha, comme vous dites.
Vous voudrez être une petite souris
pour assister à ça. Je viendrai avec un micro, je me mettrai sous le piano, j'aurai aussi un appareil photo. Enfin voilà, ce serait le beau jour.
Il y a des enregistrements de quoi on a fait ensemble.
Bien sûr, on les écoutera. On va aussi lire et relire L'âme et la corde d'Ivry Gitlis. Il est beau ce livre, il commence comme ça. Chers jeunes collègues des nouvelles générations, s'il vous plaît, ayez le courage d'être vous-même, de prendre des risques, de ne pas être les copies de vos enregistrements ou de ceux des autres. Important de pousser les jeunes artistes à être eux-mêmes.
Mais vers quoi veut-on le pousser? Vers l'abîme? Où ils seront détruits? La soupe pour le diable, ouais. Non.
Vous voulez bien qu'on se quitte en musique avec vous une fois encore? On a choisi Wieniawski, Polonaise brillante numéro 1 en Ré majeur opus 4. Ça vous ira? Hein, comme un au revoir. Et ben regardez, le téléphone sonne. Téléphone sonne, bonsoir, disait-on autrefois. On vous écoute avec Wieniawski, monsieur Gitlis. Et c'est sur les cordes d'Ivry Gitlis que j'appelle ma tendre amie Charline Van Anecker. Bonjour Charline.
Oh mon Vincent Josse, vous êtes mon troubadour.
Oh j'aime cette idée.
Oh je vous imagine en collant, moulant. Oh là là, ça y est, je suis troublée.
Vous recevez qui pour être troublée à ce point?
Eh bien nous recevons Olivia Moore et David Assancote qui sont nos camarades d'Europe 1, humoristes. Vous avez fait une petite chanson réponse à la note pour Patrick Cohen.
Je vois très très
bien. Vous voyez un petit peu où on veut en venir.
Eh bien je vous souhaite une bonne émission.
Ça va être rigolo.